Alors, je voudrais parler en trois points. Premièrement, il y a dans les réflexions que nous avons menées, qui sont des réflexions, comment dire, apéritives, destinées à nous aider et à nous encourager. Il y a dans les réflexions que nous avons menées une origine qui se trouve dans les écrits bibliques que nous considérons, grâce à la transmission que nous en fait l'Église, comme un lieu où le Seigneur nous parle aujourd'hui. Bon. Cette origine est liée à des aspects absolument fondamentaux de la révélation. Dieu met à part une personne pour tous. Ça commence avec Abraham et ça s'accomplit pleinement en Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Cette mise à part pour tous est fondamentale pour notre chemin personnel parce qu'il implique que pour être vraiment pour tous, il faut que nous consentions à une mise à part. Vous pourrez trouver cela très puissamment exprimé par l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 1, versets 13 et suivants. « Quand Dieu, qui dès l'origine m'avait mise à part dès le sein de ma mère, daigna révéler en moi son Fils pour que je l'annonce aux nations. » Il y a donc une critique radicale par les écrits bibliques de la conception spontanée que la culture actuelle porte de l'universalité. Le catholicisme est une puissante aide pour penser les rapports entre le tout et les parties, l'un et la multitude, l'un et le multiple. Il s'agit donc pour les disciples du Christ d'assumer leur mission pour tous en consentant à la mise à part. Ce premier point se développe, toujours dans ce premier point, en deux assertions. Première assertion, première affirmation, la diversité fait partie de l'universalité. L'uniformité répugne à la catholicité. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième affirmation, c'est que dans l'expérience concrète, nous voyons que nos diversités sont source d'opposition ou de conflit. Ça ne vient pas du fait que nous sommes divers, mais ça vient du fait que nous sommes pécheurs. La mise à part pour tous implique une transformation de chacun. C'est le chemin de la sanctification. Ce qui nous sépare n'est pas le fait que nous soyons divers. Ce qui nous sépare n'a qu'un seul nom, c'est le péché. Et de ce point de vue, le péché nous rend vulnérables à l'action du démon, qui est l'accusateur des frères. Par conséquent, la construction de notre identité est à la fois consentement à être mis à part et combat. Combat qu'on appelle peut-être d'une manière trop rapide spirituelle. Je vais y revenir. Ça, c'était le premier point. On comprend dès lors que toute action de Dieu dans l'humanité est une action qui met à part pour tous. Vous voyez, on a de cela une affirmation très nette dans Marc, lorsqu'on regarde la première fois que Jésus ouvre la bouche dans Marc, il n'y a pas de destinataire précis. Ça veut donc dire que sa parole s'adresse à tous. Et sur ce fond d'universalité, il appelle des disciples auprès de lui, et eux, en consentant à n'être plus au monde par leur propre force, mais à être au monde par l'appel du Christ, entrent dans l'universalité de la proclamation et la réalisent. Ça, c'était le premier point que je voulais souligner, qui a des conséquences considérables, parce qu'il signifie que la véritable ouverture à l'universalité, c'est le consentement à la spécificité de notre appel. C'est vrai à titre singulier, personne singulière, c'est vrai à titre communautaire, c'est vrai à titre ecclésial. C'était le premier point. Le deuxième point concerne ce qui a été dit de manière diverse par nos trois intervenants, à savoir sur quoi porte cet appel. Cette mise à part, dans le langage courant, mais non suffisamment réfléchi de l'Église, c'est un appel qui nous donne une vie spirituelle. De fait, quand nous parlons de notre vie spirituelle, nous pensons spontanément à la relation de notre âme avec Dieu. En fait, nous n'avons qu'une seule vie. Et lorsque Vatican II parle de vie spirituelle, il considère la totalité de la personne dans la lumière de son appel premier et dernier. L'appel à l'existence, l'appel à la communion divine. Vie spirituelle implique donc toutes les dimensions de la personne historiquement située, c'est-à-dire de la personne qui vit son humanité, selon la modalité de ce que Ratzinger appelle la seconde nature, c'est-à-dire la nature blessée par le péché. Les trois dimensions de la vie spirituelle sont, selon Vatican II, la singularité, la socialité et la responsabilité. Lorsque nous réfléchissons par conséquent à une minorité créative, nous ne disons pas autre chose que ceci. Nous parvenons à la plénitude de notre humanité qui est notre divinisation en assumant ensemble les trois dimensions inséparables et co-essentielles de notre personne. Et ces trois dimensions sont toutes trois porteuse et lieu où se dit, où s'exprime, où s'expérimente et se réalise l'union au Christ. Nous risquons assez spontanément de faire basculer vie spirituelle du côté de l'individu et puis vie apostolique du côté de la société. C'est une erreur. La meilleure preuve, nous l'avons dans les évangiles, c'est que lorsque Jésus dit à ses disciples « Venez à l'écart et reposez-vous un peu », en les attirant à lui dans leur corporéité, dans leur relation, lorsqu'ils arrivent à l'endroit, il y a plein de gens. Et donc leur départ du milieu des autres pour aller avec Jésus dans un lieu espéré désert est un acte social, est un acte public, est un acte qui génère finalement l'accroissement d'une communauté. Donc il y a une réflexion urgente à mener à la fois pour notre propre compréhension personnelle et notre manière d'en parler lorsque nous utilisons le mot « vie spirituelle ». On peut dire que « vie spirituelle » désigne la marche de la personne singulière et qui va le devenir de plus en plus, étant donné que ce qui nous rend bêtement conformes les uns aux autres, c'est les comportements grégaires, c'est des comportements qui ne sont pas assumés vraiment personnellement, on peut dire que vie spirituelle va développer en même temps notre identité propre et notre identité sociale ou communautaire, relationnelle, et notre identité dans l'action. De ce point de vue, évidemment, toute organisation ecclésiale est en vue de l'accroissement de la vie spirituelle. C'était le deuxième point. Le troisième point concerne un des aspects qui a été soulevé parfois d'une manière incidente et je crois une fois explicitement, je crois que c'est le père Noriega qui l'avait souligné, il a dit « Comment c'est possible que deux personnes qui ont toutes les deux des qualités remarquables ne puissent pas vivre ensemble ?» Donc c'est la question du rapport entre le développement des qualités personnelles et le fait que ces qualités qui nous sont données, qui correspondent aussi au chemin que nous avons à vivre pour mettre à la disposition de Dieu la plus haute valeur humaine qu'il nous est possible d'acquérir, comment se fait-il que ces qualités ne sont pas communicables à un groupe et que même dans un groupe donné, les qualités de tel et de tel semblent n'avoir d'autre but que de se faire souffrir mutuellement, voire de s'annihiler ou de se paralyser. C'est une question qui est très importante dans la vie pastorale concrète, dans les groupes, dans les familles, dans les mouvements. Alors, de ce point de vue, il y a dans le livre Les minorités créatives une étude sur les vertus qui rendent nos qualités communicables et fécondes pour la minorité créative à laquelle nous appartenons et donc nous permettent d'accomplir notre mission d'être signe et instrument de l'union intime avec Dieu et de l'unité du genre humain. Ces vertus sont au nombre de deux, et je terminerai par là, sous la forme d'un appel et d'une interrogation. La première, c'est l'audace. Alors, il ne s'agit pas de l'audace de l'adolescent qui a des conduites à risque, ou des sports extrêmes qui confondent la joie de vivre avec le plaisir que donne la montée d'adrénaline. Il s'agit de l'attitude décidée devant le défi à relever. Jésus prit résolument le chemin de Jérusalem. L'audace. Le courage d'affronter face à face le défi auquel on est confronté. Et j'apporte une précision sur ce défi qui est interne à chacun de nous. Nous avons beaucoup parlé de l'homme moderne ou de l'homme postmoderne. Il y aurait un risque, c'est de considérer que l'homme moderne, l'homme postmoderne, c'est l'autre. En fait, c'est moi. Et je dois donc consentir à ressentir en moi que les questions que me pose ma postmodernité ne sont pas satisfaites par les réponses que je me donne en tant qu'appartenant, purement et simplement, à l'Église ou à une communauté. Je dois consentir à ce que les réponses chrétiennes reçues ne satisfassent pas totalement la manière dont je me pose les questions. Ratzinger dit, mais c'est que Ratzinger, à un moment où il n'était pas pape, donc on peut discuter, que le dialogue réel avec la personne qui n'est pas de mon avis, même allant jusqu'à la question du croyant ou de l'incroyant, s'établit, ce dialogue, lorsque le croyant se dit, et peut-être que ça n'est pas vrai, et lorsque l'incroyant se dit, et peut-être que c'est vrai. Donc, relever le défi par l'audace, c'est pas simplement faire un think tank d'initiatives nouvelles dans lesquelles on va prendre des risques en quittant sa zone de confort et en se mettant en danger sans même s'en rendre compte. C'est d'abord affronter en moi-même ce dialogue difficile. Et affronter ce dialogue en moi-même implique qu'il y ait des lieux et des temps où je puisse partager cet affrontement avec ceux et celles auxquels je suis lié par une appartenance commune. C'est la condition du développement des charismes et de leur adaptation dans la fidélité. Audace. Et la deuxième vertu qui rend les qualités singulières aptes à devenir des qualités, des vertus du groupe, c'est la magnanimité, la grandeur d'âme. On voit large et on marche. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que quelle que soit la puissance de mes convictions, elles reçoivent toujours d'autrui. Je reçois plus grand de celui auquel je prétends apporter. Du point de vue des minorités créatives qui sont porteuses toutes d'un charisme particulier, leur développement suppose qu'elles reçoivent de la marche de l'Église dans son universalité cette grandeur d'âme, cette magnanimité. Nous avons sur ce point un chemin, tous et chacun, à initier, à parcourir. Il nous est impossible de le vivre seul. L'épanouissement de notre « je » s'accomplit dans un « nous » et se reçoit aussi d'un « nous ». Mis à part pour tous, vie spirituelle, la totalité de la personne, en marche, grâce à la vertu d'audace et de magnanimité, vers la communion, afin que notre communion soit avec le Père et le Fils par l'action de l'Esprit-Saint. Merci.